Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, pour ce huitième dimanche après la Pentecôte, nous lisons un passage de l'épître de saint Paul aux Romains, texte qui a besoin d'être commenté et qui n'est pas facile, mais aussi qu'il faut connaître, tellement il est chargé d'enseignements. Nous pouvons y distinguer trois parties bien distinctes, disons trois pères ou trois couples. La chair et l'esprit, premièrement. Deuxièmement, la crainte et l'amour. Troisièmement, la filiation et l'héritage. Commençons par la chair et l'esprit. Saint Paul commence par ces paroles, je cite, « Nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair, car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous tuez les œuvres de la chair, vous vivrez. » Qu'est-ce que cette chair et cet esprit dont parle l'apôtre? Dans son vocabulaire, la chair désigne la nature humaine, viciée par le péché originel, siège de passions mauvaises, c'est-à-dire tendance déréglée, non seulement du corps, comme l'intempérance, l'impureté, mais aussi de l'âme, comme l'orgueil, l'envie. Par suite du péché originel, l'homme a perdu l'empire de l'esprit sur les sens, sur la chair. De là, toutes ces mauvaises tendances qui cherchent à le pousser vers ce qui est plus bas. Comme écrivit saint Paul, « Je ne fais pas le bien que je veux et commets le mal que je ne veux pas. » Nous ne devons pas être des serviteurs, les serviteurs de cette chair, et encore moins ses esclaves. Bien au contraire, grâce à notre baptême, nous avons commencé la domination sur le corps du péché. C'est un duel à mort, entre la chair et nous. Si elle gagne, nous mourrons, ici-bas de la mort spirituelle du péché, et plus tard, dans l'au-delà, mort de la damnation éternelle. Mais si nous tuons la chair, c'est-à-dire si nous la mortifions, nous vivrons et spirituellement et éternellement. Cette mortification corporelle, soulignons-le, n'a pas pour but le plaisir de faire souffrir le corps, mais de le discipliner, de vaincre toutes ses mauvaises tendances. Il s'agit de mettre un frein pour prévenir les chutes, éviter les déviations, diriger vers le bien des forces qui, abandonnées à elles-mêmes, peuvent porter au péché. Et qu'est-ce que l'esprit dont nous parle saint Paul? L'esprit, dans la première partie, n'est pas tant le Saint-Esprit que la force surnaturelle déposée dans l'âme par la grâce, avec les vertus, et les dons. C'est au baptême que nous avons reçu cet esprit. Et désormais, si l'on n'y pose pas d'obstacle, il nous met en mouvement. Il nous met sous sa dépendance. En plus, il nous fait prendre l'offensive contre la chair, contre la concupiscence. Enfin, cet esprit n'est pas seulement une arme, c'est une vie. Vaincre notre ennemi par l'esprit ne suffit pas. Il faut encore vivre par l'esprit. La vie spirituelle n'est pas uniquement combat spirituel, c'est une vie. D'ailleurs, du moins dans les temps normaux, on engage la guerre en vue de la paix, de la vie en sécurité. Ce qui dit l'adage latin, civis pacem para bellum. Si tu veux la paix, prépare-toi à la guerre. La nature déchue existe encore dans l'homme en état de grâce. Mais cette grâce nous donne de si grandes forces pour dompter les instincts charnels qu'on peut dominer cette chair en être vainqueur. Mais qu'est-ce qui se trouve dans la grâce pour faire de nous, pauvres créatures, de tels triomphateurs? La réponse, il faudrait la chercher dans ce qu'est la grâce. Saint Thomas d'Aquin dit qu'elle est une participation de la nature même de Dieu, plus fort même, que c'est la transformation de l'homme en Dieu. Ajoutant que la grâce est ce qu'il y a de plus excellent dans les trésors de Dieu. Elle nous grandit, elle nous ennoblit, elle réalise comme le transfert en notre âme de la nature et des attributs mêmes de la divinité. Comme le fer incandescent qui sans perdre sa nature devient pénétré de fond en comble par la vertu du feu, comme le diamant qui accueille et irradie tous les feux, l'âme, par la grâce, devient complètement baignée de la vertu et de la clarté, de la divinité. Elle en subit une métamorphose, comme un papillon, si profonde et si fantastique qu'elle mérite d'être qualifiée de divinisation. Avec cette transformation, avec cet équipage, rien d'étonnant que l'homme en état de grâce triomphe facilement sur le péché et sur soi-même. Après le premier couple, la chair et l'esprit, en voici le second, la crainte et l'amour. Ce que mêle l'Esprit de Dieu, continue saint Paul, sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui soit de nouveau un esprit d'esclavage menant à la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Auprès donc de notre esprit, avec un E minuscule, pour le diriger, l'éclairer, le réconforter, l'apôtre indique l'Esprit de Dieu, esprit avec un E majuscule, c'est-à-dire cette fois-ci l'Esprit Saint. On se rappelle de notre catéchisme que la grâce sanctifiante est produite dans notre âme par la Trinité tout entière. Cependant, comme elle est une œuvre d'amour et que dans la Trinité, le Saint-Esprit est le fruit de l'amour mutuel du Père et du Fils, on attribue spécialement au Saint-Esprit la production de la grâce dans nos âmes. D'ailleurs, saint Paul, dans notre texte, parle surtout de l'action de l'Esprit-Saint dans l'homme en état de grâce. En fait, l'Esprit-Saint et la grâce sont une seule et même chose. Il est en même temps donateur et don. Il donne la grâce, mais le donateur vient lui-même avec son don et le conserve par sa présence. Donc, chaque fois qu'un enfant ou un adulte est baptisé, le Saint-Esprit pénètre dans l'âme comme un soleil, le remplit de sa divine lumière et fait du corps et de l'âme de l'homme en état de grâce le temple de sa gloire. Le Saint-Esprit habite donc d'une manière tout à fait à part, d'une manière permanente, dans un homme juste. Bien plus, c'est lui qui agit en lui. Il est sa main, son œil, sa bouche. Mais cet heureux état de l'homme habité par le divin hôte est tout autre que son état précédent, d'homme souillé par le péché originel et privé de la grâce. Il se laissait mener par la chair, par sa nature déchue, que saint Paul appelle esclave du péché. Mais à présent, après le baptême, le Saint-Esprit prend la direction dans cette âme. Ce n'est plus la chair qui domine, mais l'Esprit-Saint. Prenons l'exemple d'une voiture. Un simple mouvement de la main sur le volant suffit et la voiture se dirige là où nous voulons. Elle nous obéit immédiatement, heureusement. C'est ainsi que l'homme en état de grâce suit le plus léger mouvement du Saint-Esprit, de son, pour ainsi dire, divin chauffeur. Mais très important, Cette obéissance n'est pas le produit d'une crainte servile. L'esclave est guidé par la crainte. Ce n'est pas la manière de faire de l'Esprit Saint. Il n'est pas un marchand d'esclaves. Il est l'esprit des enfants de Dieu. Et c'est une vérité bien consolante pour nous, chers fidèles, que le Saint-Esprit est l'esprit de douceur et d'indulgence qui nous fait enfants de Dieu et nous conduit au Père Céleste. C'est par le Saint-Esprit, dit saint Paul dans notre épître, que nous crions « Abba, Père ». Il y avait un roi qui passait sur une route dans son carrosse doré. Un petit mendiant, gitan, aux vêtements en lambeaux, était sur le bord de cette route. Le roi le fait monter, l'emmène dans son château, lui fait revêtir de beaux habits et en fait son fils, le prince héritier. Vous diriez, chers fidèles, que de pareilles choses n'arrivent que dans les fables. Pas tout à fait. C'est ce qui se passe entre Dieu et l'homme. Il le fait passer du zéro au héros. L'homme, par sa nature, est une créature de Dieu, tel un serviteur, voire un esclave. De plus, à la suite du péché originel, et par ses nombreux péchés personnels, il a contracté une dette quasi infinie envers Dieu. Aux yeux de Dieu, c'est un rebelle, un ennemi. Et pourtant, Dieu passe par-dessus tout cela et fait de l'homme, par la grâce, son enfant chéri. Nos rapports avec Dieu sont donc essentiellement filiaux, puisque nous appartenons à la famille de Dieu. Et ce sentiment de piété filiale, c'est-à-dire de pleine confiance dans le Père Céleste, c'est encore le Saint-Esprit qui le répand dans notre âme. L'Esprit en personne, dit l'apôtre, se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous aime donc comme ses enfants. Nous avons donc le droit d'aller à lui et lui donner le doux nom de Père. Abba, mon Père, doux Père. Le même mot Abba que notre Sauveur utilisait dans sa prière sacerdotale au Cénacle, le jeudi saint, dans sa prière de l'agonie au Jardin des Oliviers, dans sa prière sur la croix. Abba, Père. Mais Dieu, parce qu'il est Père, connaît ce devoir envers ses enfants. L'enfant hérite des biens de son père. Ainsi, nous arrivons au troisième couple de notre épître, après la crainte et l'amour, la filiation et l'héritage. L'Esprit lui-même, écrit l'apôtre, ajoute son témoignage à notre esprit sur ce fait que nous sommes enfants de Dieu. Enfants, mais alors aussi héritier, oui, héritier de Dieu, co-héritier du Christ. Héritier de Dieu, co-héritier du Christ. Quel est cet héritage? Il est tout spirituel. Il se compose de la grâce et de la gloire, des trésors infinis qui comprennent tous les biens de notre Père Céleste, sur la terre et dans le ciel. Ce sont ici-bas la rémission des péchés, les vertus théologales et morales, le don du Saint-Esprit. Et là-haut, possession pour toujours du royaume céleste, vision béatifique. Mais pourquoi cette addition à la fin que nous sommes co-héritiers du Christ? Premièrement, si Dieu le Père nous aime comme son Fils, il est logique, il est évident qu'il veut à nous aussi, ses enfants d'adoption, donner l'héritage qu'il a donné à son Fils lors de son ascension, le royaume du ciel. Deuxièmement, pour être enfant de Dieu, il faut ressembler à son Fils unique. Il faut être son frère ou bien sa sœur. Il faut reproduire son image. Et ici, le Saint-Esprit joue un rôle bien important. Il est un magnifique sculpteur, sculpteur spirituel. C'est lui qui sculpte en nous les traits de cette divine ressemblance, en nous rendant de plus en plus conformes à notre Sauveur, à ce Jésus qui est le Fils par excellence, Fils de Dieu par nature, non seulement par adoption, toujours par la grâce. Et c'est à savoir la grâce qui nous transforme en d'autres fils de Dieu est identique à celle qui a sanctifié l'âme de Jésus-Christ, qui la sanctifie toujours. Et ces deux opérations s'effectuent par le travail toujours du Saint-Esprit. Bien sûr, notre grâce nous est donnée dans une mesure infiniment moindre, alors que notre Sauveur la possède en plénitude. Ainsi, par la grâce, nous sommes les images de Jésus-Christ, les héritiers comme lui de la béatitude céleste. Demandons-nous à la fin, quelle serait notre réponse à tant de prévenances, tant d'amour et de délicatesse de Dieu envers nous, peu ou pas du tout mérité, réponse à tant de noblesse qu'il nous offre tout gratuitement, dès maintenant, et à laquelle le bon Dieu nous invite dans l'autre monde. Eh bien, noblesse oblige. Aujourd'hui, quand l'homme se méprise, qu'il doute s'il est vraiment homme, s'il a même une nature humaine, jusqu'à s'assimiler à la bête sans raison, la première réaction, ce serait de regarder en haut, sur son corda, en haut le cœur. Un chrétien en état de grâce est de race divine. La terre n'est pas ni son royaume éternel, ni même le terme de sa vie. Parfois, chers fidèles, on n'est pas très sûr d'aimer vraiment le bon Dieu. Et voilà, c'est le bon Dieu qui nous vient en aide. Il nous a aimés le premier, et en nous aimant, il a répandu en nous, dans nos âmes, la grâce et la charité qui nous rendent capables de payer son amour de retour. La véritable amitié fait que les deux personnes ont les mêmes pensées, mêmes volontés, mêmes intérêts. Le vrai ami épouse les intérêts, les vouloirs de son ami. Il pense comme lui, aime ce qu'il aime, veut ce qu'il veut. On doit en faire autant avec Dieu si nous voulons vivre comme ses amis. Et cela demande de nous la tendance continuelle à conformer nos pensées, nos vouloirs à la pensée, à la volonté du bon Dieu. Chaque fois que nous correspondons aux invitations divines, que nous faisons de généreux actes de charité sous la poussée de la grâce, le divin hôte de notre âme renouvelle sa visite invisible à notre âme et y répand toujours une grâce nouvelle et une nouvelle charité. Notre vie surnaturelle se développera ainsi sous l'action du Saint-Esprit et sera toute prise dans le courant vivifiant et transformant de son amour. Que Notre-Dame, en qui le Saint-Esprit se plaisait et s'y plaît toujours, comme dans son temple, en cette Vierge immaculée pleine de grâce, où la grâce n'a cessé de croître en elle quand elle était sur terre, devenant canal de toutes les grâces dont le Saint-Esprit veut nous gratifier, que la médiatrice de toutes les grâces prépare notre pauvre cœur à cette action de l'Esprit-Saint, qui désire nous transformer en des vrais enfants de Dieu et qu'elle y achève l'œuvre de notre filiation divine. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.